Cube Radio.
Sophie Durocher.
Sophie Durocher.
Sophie Durocher.
Mon nom est Sophie Durocher.
Sophie Durocher. Des opinions éclairantes qui font la différence.
Cube Radio.
Bonjour tout le monde, c'est Sophie, très contente de vous retrouver aujourd'hui. Écoutez, on déplore aujourd'hui la mort d'un grand comédien québécois, Jacques Gaudin, décédé à 90 ans. Un comédien avec un charisme absolument incroyable. Chaque fois qu'il apparaissait à l'écran, on ne voyait plus que lui. Je pense à lui en particulier dans la charge de L'Orignal épormiable de Claude Gauvreau. Je pense à lui évidemment dans cette pièce de théâtre Des souris et des hommes de Steinbeck qui avait été présentée à Radio-Canada. C'était dans les années 70 et c'est assez particulier parce qu'aujourd'hui, François Legault, donc sur son compte Twitter, a salué bien sûr le départ du comédien Jacques Gaudin, et il a dit ben, « je n'oublierai jamais ce téléthéâtre qui avait été présenté sur les ondes de Radio-Canada en 1971 ». Alors, je vous propose d'en écouter un petit extrait où Jacques Gaudin joue le rôle de Lenny, donc cet homme baraqué, mais qui avait l'âge mental d'un enfant de 5 ans. On en écoute un petit extrait.
« Raconte-moi d'abord, plus en avant. »«
T'as raconté quoi? »«
Les autres gars, puis nous autres. »
Les gars comme nous autres, ça n'a pas de famille. Ça a gagné une petite paye, puis ça a maudit en l'air. Ça a personne qui donnera une scène noire au yob sur la terre pour eux autres.
Et pas nous autres, en vrai. Nous autres, on...
Mais pas nous deux.
À cause que... On...
À cause que... J'étais avec moi.
Puis toi, avec moi, on est ensemble. Toi puis moi, ensemble. Puis qu'ils essayent pour personne.
R.I.P. Jacques Gaudin, un comédien vraiment hors de l'ordinaire. Et la raison pour laquelle je vous faisais jouer cet extrait de Jacques Gaudin et de Des souris et des hommes, c'est qu'il faut pas oublier qu'à une certaine époque, à la grande époque de Radio-Canada, on nous présentait des pièces de théâtre, des performances magistrales de nos plus grands comédiens sur les ondes. À quand un retour à cette belle époque de Radio-Canada?
Sophie Durocher.
Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
Sophie Durocher.
La situation qui se passe en ce moment en France a quelque chose d'un petit peu absurde, un peu surréaliste. Après l'assassinat par un terroriste islamiste de l'enseignant Samuel Paty qui avait montré en classe des caricatures de Mahomet, il y a évidemment le gouvernement français qui a pris toutes sortes de mesures envers différents organismes associés à un islam radical. Et on s'entend que c'est quand même la France qui a été victime d'un attentat terroriste. Ben, dans certains pays musulmans à travers le monde, on s'en prend à la France. C'est quand même un retournement de situation assez particulier. On en parle avec Christian Rioux, qui est correspondant du Devoir à Paris et qui est collaborateur à Cube Radio. Bonjour Christian.
Bonjour Sophie.
Est-ce que c'est pas un drôle de retournement de situation d'avoir ces pays musulmans qui disent « bon, il faut maintenant boycotter les produits français », comme si la France était un agresseur dans cette histoire-là?
Oui, absolument. On a l'impression que c'est l'arroseur arrosé. Hein. Vous savez, c'est une espèce de renversement de situation. Un enseignant français est assassiné et voilà tout à coup que des pays, puis pas seulement quelques-uns, un grand nombre s'en prennent à la France en lançant des appels au boycottage des produits français parce que la France déclare la guerre à ce qu'elle appelle le séparatisme islamiste ou parce qu'elle s'entête à vouloir toujours conserver, en tout cas préserver, protéger le droit de ceux qui caricaturent Mahomet. Alors, on a assisté depuis quelques jours à des appels au boycottage en Algérie, au Maroc, au Qatar, en Jordanie et au Koweït. Et j'en oublie probablement parce que je pense qu'il y a eu des appels
aussi
au Pakistan. Oui, voilà, c'est ça. Et donc, parfois, ce sont des partis politiques, parfois, ce sont des élus, parfois, ce sont des organismes économiques. Mais on sent vraiment une sorte de mouvement très large, moins large peut-être que celui qu'on avait connu en 2005, là, à l'époque des caricatures danoises. chinoise, mais quand même. Et je vous dirais que celui qui prend le leadership de tout ça, c'est M. Erdogan en Turquie. Oui, oui, absolument. Qui, lui, en tout cas, a l'impression de vivre un moment de gloire quelque part, parce que, bon, Erdogan a un vieux contentieux avec la France, hein. C'est Sarkozy qui s'était opposé à son entrée dans l'Union européenne. Pensons au soutien des Kurdes, pensons que la France a défendu la Grèce il n'y a pas très longtemps face à M. Erdogan. Pensons même au Karabakh. Il y a toute une série de fronts, hein, la Libye aussi, où la France est quelque part en contradiction avec la Turquie. Et je pense que M. Erdogan, son ennemi favori, c'est justement la France. Et
Macron en particulier, parce qu'il l'a insulté en se questionnant sur son état mental.
C'est ça, il l'a tutoyé dans son intervention et il s'est interrogé évidemment sur la santé mentale de Macron. Il y avait eu des insultes de ce type-là auparavant autour de la question de l'OTAN quand Macron avait questionné l'utilité aujourd'hui de l'OTAN, parce que vous savez que la Turquie est membre de l'OTAN. Donc on sent bien que M. Erdogan veut quelque part utiliser la France pour prendre un certain leadership, hein, dans le monde musulman, parce que le monde musulman est très divisé. Il y a l'Iran, il y a l'Arabie Saoudite et il y a justement la Turquie qui a des ambitions aujourd'hui, une fois qu'elle a été refusée dans l'Union européenne, qui a des ambitions aujourd'hui et des nostalgies, on pourrait dire, d'empire ottoman. Donc, on voit bien que M. Erdogan, on dit qu'il utilise ça évidemment sur le plan intérieur, parce que la crise économique sur le plan intérieur est assez dure en Turquie aujourd'hui et son pouvoir est quand même d'une certaine façon un peu instable, mais on voit bien qu'Erdogan veut imposer son leadership, un peu comme à l'époque de l'Empire ottoman, son leadership au monde musulman.
Mais ce qui est surprenant,
des occasions pour le faire.
Oui, c'est ça, puis des occasions qui sont mal choisies, parce que dans ce cas-ci, c'est quand même hallucinant, parce que on n'arrête pas de répéter avec raison qu'il ne faut pas faire d'amalgame, que quand quelqu'un commet un crime au nom d'Allah, ça ne se fait pas au nom de tous les musulmans. Il faut pas faire d'amalgame entre les islamistes, les radicaux, les terroristes et la population musulmane qui veut vivre en paix. Or, ce que font tous ces pays-là, c'est de dire, ben, il y a un terroriste islamiste qui a commis un acte, donc on va tous se montrer solidaires parce que nous sommes musulmans. Ils devraient au contraire se dissocier de cet acte-là.
Oui, absolument. Et en tout cas, au niveau des pouvoirs, on ne voit pas véritablement de façon de pouvoir, en tout cas de représentants qui se dissocient véritablement. Vous savez que le monde musulman est quand même un monde où, depuis un certain nombre d'années, l'islamisme a gagné énormément de terrain. Erdogan en est l'exemple même.
Mais oui.
Vous savez qu'il y a 10 ans, on donnait l'exemple de... Moi, j'étais allé en Turquie à une époque où on nous disait Erdogan, ça va être la démonstration, la preuve que l'islam peut être démocratique. Regardez, c'est un musulman, c'est un islamiste, ça va faire comme une sorte de démocratie chrétienne, ce sera une démocratie musulmane, et on voit ce qui s'est passé avec M. Erdogan. Mais vous savez, ces pays-là ont aussi des intérêts, hein. M. Erdogan, par exemple, est extrêmement silencieux depuis 2016 sur les Ouïghours. Pourtant, les Ouïghours sont musulmans, hein, en Chine.
Oui, une communauté, 2016, une minorité musulmane qui est vraiment, victime de ce qui s'approche d'un génocide là en Chine, puis normalement par solidarité, il devrait par solidarité musulmane, par solidarité co-religionnaire, se porter à leur défense, puis il dit pas un mot parce que c'est pas d'une communauté qui a intérêt à défendre.
Absolument, il le faisait jusqu'en 2016, jusqu'à temps que la crise économique s'aggrave dans son pays. Et depuis 2016, il se tait. Il a même extradé des résistants ouïghours en Chine aujourd'hui. Il y a une collaboration aujourd'hui entre les deux gouvernements. Alors, vous voyez bien que la solidarité musulmane de M. Erdogan, elle est à la pièce. Et la France,
à géométrie variable.
Oui, voilà, en ce sens, c'est l'ennemi idéal. La France est l'ennemi idéal. raisonnable. L'Allemagne, c'est un pays que M. Erdogan peut faire chanter grâce aux 3 millions de Turcs qu'il y a en Allemagne. Mais la France, c'est vraiment l'ennemi idéal parce que c'est un ennemi qui est pas trop fort, je dirais, et qui est le symbole aussi de la laïcité, on peut faire à croire que les Français oppriment les musulmans sur leur territoire. Donc c'est vraiment, on sent bien que M. Erdogan essaie là de conquérir un leadership dans le monde musulman.
Mais ce qui m'inquiète, Christian, si je peux me permettre de vous interrompre, ce qui m'inquiète, parce que je suis beaucoup les médias français et vous aussi bien sûr, ce qui m'inquiète, c'est de voir que il y a plein de pays musulmans donc qui appellent au boycott de la France et qui se servent pour justifier ça de représentants de la gauche française qui traitent la société française d'islamophobe, d'anti-musulmans et tout ça. Qui se servent de ça en disant « Ah, vous voyez, même en France, il y a des gens qui disent que la France est islamophobe. » Donc, ils font de la récupération politique avec des gens qui sont qui critiquent la France. Donc, à l'intérieur même de la France, il y a des gens qui jouent le jeu des islamistes.
Oui, absolument. Je pense qu'on peut le dire. C'est à la fois le drame un peu de nos sociétés, à la fois aussi une qualité quelque part de se critiquer elle-même, mais au point où une certaine gauche en particulier en France le fait, où on laisse, je dirais, toute la liberté possible aux organisations islamistes et on s'empêche même à la limite de les critiquer. Et il faut quand même constater, on voit là l'ampleur du débat. Il y a une sorte de choc de civilisation quand même qui se produit. Là, vous l'avez dit tout à l'heure, l'immense majorité des musulmans veulent vivre en paix, mais il reste que il y a quand même un choc de civilisation qui se produit entre une civilisation qu'on pourrait appeler française, plutôt chrétienne, et une civilisation musulmane qui est pas univoque, qui est pas où il y a des voies différentes, mais où il y a quand même peu de pays où on a séparé la religion de la politique. Donc on voit bien là que même au Maroc, même en Algérie, qui devait être le grand pays de la révolution algérienne, que la gauche a soutenu, on s'aperçoit aujourd'hui que l'islamisme est extrêmement présent aujourd'hui dans l'État, dans tout ce qui est institution finalement en Algérie. Et donc on assiste vraiment à des chocs. On a un peu l'impression de revenir à des chocs culturels, à des chocs de civilisation qu'on avait connus, avant la Première Guerre mondiale. C'est pas pour rien qu'on parle de l'Empire ottoman aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Mais ce qui est le plus désolant dans tout ça.
On est un peu inconscient face à ça.
Ben oui, mais ce qui est le plus désolant, pour rappeler ça, ramener ça sur un côté beaucoup plus terre à terre, c'est que on a tous quand même été terrorisés, on a tous éprouvé une immense détresse, une immense révolte de voir un enseignant égorgé, décapité, et normalement on devrait tous à travers la planète être complètement tétanisés par cette histoire-là, puis là ça devient un cas de il faut boycotter le camembert, puis il faut arrêter d'acheter du fromage de la vache qui rit. Je veux dire, on a perdu de vue complètement la question fondamentale, qui est un homme de 47 ans a perdu la vie, a été décapité parce que il s'est battu pour la liberté d'expression. C'est quand même ça à la base. Et on aurait aimé voir tous ces pays-là, l'Algérie, le Maroc, etc., émettre ne serait-ce qu'un début de peine de dire à quel point c'était terrible ce qui s'est passé. Puis ça, c'est pas arrivé. Et ça, je trouve ça terrible.
Oui, on n'a pas vu ça, mais on s'imagine toujours que le terrorisme, c'est un acte isolé,
le loup solitaire.
Le loup solitaire, oui, c'est ça qui agit comme ça. Mais si le terrorisme qui survit, qui se répète, qui marche quelque part et qu'on retrouve régulièrement, c'est un terroriste qui bénéficie, je dirais, de plusieurs couches de soutien, Il y a le terroriste, il y a les terroristes, il y a des organisations qui les aident, il y a des sympathisants, il y a des mouvements islamistes, mais il y a aussi aussi tous ceux qui se taisent. Et se taire à l'égard du terroriste, c'est déjà quelque part une forme de soutien. On sent dans le mouvement, dans le monde musulman, un grand silence là-dessus. Bien sûr, ces musulmans-là veulent vivre en paix avec tout le monde. C'est pour ça, d'ailleurs, je pense qu'ils se taisent. On peut les comprendre parce que c'est pas facile d'intervenir sur des questions comme ça. Mais le terrorisme survit parce qu'il y a toutes ces couches quelque part qui ne le condamnent pas d'une certaine façon.
Tout à fait, alors que ça aurait dû être fait. Justement, il y a une histoire qui a ébranlé la société française récemment. Une jeune fille de confession musulmane, en tout cas d'une famille musulmane, qui est tombée amoureuse d'un jeune garçon chrétien. Ça s'est plutôt mal passé pour elle. Racontez-nous cette histoire-là. Christian?
Oui, c'est tout à fait. Ça aurait pu être une tellement belle histoire, en fait.
Hein? Un peu Roméo et Juliette, hein? Ouais.
Oui, c'est ça, une jeune bosniaque de 17 ans seulement qui tombe en amour avec un jeune serbe, sauf que le serbe est chrétien et que Selma est musulmane, sa famille est musulmane, comme on l'est en Bosnie. Et donc la famille n'est pas d'accord, elle se sauve avec lui, la famille lui dit de revenir et carrément la famille tend un piège à sa fille en lui disant de revenir, il n'y a pas de problème, mais une fois qu'elle arrive à la maison, on lui saute dessus, on la bat littéralement et on la tond, on lui tond les cheveux. Imaginez, vous voyez le symbole en France de cette tonsure là à l'époque de la libération, les femmes qui avaient eu des liaisons avec des Allemands avaient été tondues souvent en place publique et là on a fait ça à cette jeune fille de 17 ans pour l'humilier, voilà. Et donc toutes ces personnes, heureusement, ils sont cinq, hein, avoir participé à tout ça, se sont retrouvés devant les tribunaux et ils ont été heureusement condamnés sans qu'on invoque par contre le motif religieux, alors que pour la défense de la jeune fille, il semblait que le motif religieux était assez évident. Et donc les parents vont être expulsés avec leurs trois enfants d'ailleurs, l'oncle et la tante qui ont participé aussi à cet événement-là ne le seront pas pour l'instant, semble-t-il, parce qu'ils ont un statut de réfugiés, mais on sent que l'État français, en tout cas compte tenu du contexte, a réagi assez vite.
Et je trouve que c'est un message quand même assez fort qui est envoyé à ces familles. Puis on pense ici, évidemment, au Canada, on a en mémoire l'affaire de la famille Chafia, où ils appréciaient pas leur fille se vive à l'occidental et tout ça, refuse de porter le voile, elle veut avoir des chums qui sont... elles se sont retrouvées assassinées, les filles Chafia. Des crimes d'honneur. Donc, on peut considérer quand même que tondre sa fille, c'est aussi un crime d'honneur. Donc, la France, en expulsant les parents, envoie un message très clair. Et aussi, corrigez-moi si je me trompe, Christian, mais j'ai lu que les autorités françaises, donc cette jeune fille est placée sous protection, c'est-à-dire l'équivalent de la DPJ ici, et que...
Comme elle est mineure, elle est prise en charge, elle va être prise en charge à peu près complètement par l'État français, et elle aura une carte de résident.
Voilà, et ça, je trouve que c'est une belle fin à cette histoire. Moi, je trouve que la France, dans ce dossier-là, s'est montrée juste, sévère, mais juste, et ça m'a beaucoup touchée qu'on dise qu'à 18 ans, donc, elle aura la nationalité, ou enfin un statut où elle pourra continuer à vivre en France, alors que, bon, ses parents n'avaient pas les papiers nécessaires. Je trouve que c'est une belle façon, un beau message que la France envoie de dire, ben, les valeurs républicaines, c'est ça. Ça ne se fait pas de faire ce que vous avez fait. Et cette jeune fille qui donc est accueillie à bras ouverts par la société française, et alors que pendant ce temps-là, la réputation qu'on fait à la France dans le monde musulman, c'est de dire que c'est un monde, une société anti-musulman, ben on voit là justement un bon exemple de la société française qui prend soin de ses enfants.
Pas seulement dans le monde musulman, hein, même dans nos pays, souvent on fait une réputation à la France comme étant celle d'un pays pays, d'un pays où le racisme, moi qui vis en France, en tout cas depuis très longtemps, je vous avoue que la France n'est pas pour moi un pays plus raciste que la plupart des grands pays démocratiques que je connais ou que le
Québec. Absolument.
Effectivement, je pense que c'est tout à l'honneur de la France d'offrir justement l'asile et d'offrir de l'aide à cette jeune fille. Et souhaitons que ça ne soit pas un cas isolé, par contre, parce que il y a de plus en plus de ce genre de gestes qu'on voit poser en France. Hein, on parlait de crimes d'honneur. Il y a pas très longtemps, il y a eu un règlement de compte entre des Tchétchènes et des Maghrébins à Dijon. On voit que des communautés s'organisent pour souvent régler leurs comptes eux-mêmes, indépendamment de la justice. Et ça, je pense qu'un État laïque, un État démocratique, ne peut pas tolérer ce genre de choses et doit s'affirmer face à ça. Et ça, comme vous le disiez tout à l'heure au début, on a tendance à pas s'affirmer peut-être suffisamment dans des situations comme celle-là.
Bon, en tout cas, dans ce cas-là, bravo la France. Merci beaucoup, Christian Rioux. C'est toujours passionnant de vous écouter. Christian Rioux, correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir, collaborateur à Cube Radio. On vous retrouve mardi prochain pour ce coup d'œil sur l'actualité européenne. Merci, Christian.
C'est moi qui vous remercie. Au revoir.
Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
Vous écoutez
Sophie Durocher.
Qui aurait cru qu'un simple mot prononcé dans le cadre d'un cours universitaire provoquerait une telle controverse? Je dis un simple mot, c'est juste parce qu'il n'y en a qu'un, mais c'est pas un mot anodin, on est tout à fait d'accord là-dessus. Mais qui aurait cru quand même qu'un mot pourrait provoquer une telle controverse? On parle bien sûr du mot qui commence par un N qui a été prononcé par une professeure de l'Université d'Ottawa. Ben, ça continue à faire des vagues. Il y a 7 professeurs de l'Université d'Ottawa qui ont fait paraître mardi une lettre ouverte. Ils disent qu'il y a à cette université-là un climat toxique d'intimidation et se pose aussi la question dans tout ce débat-là, qui a le droit d'en parler? Qui sont les bons interlocuteurs pour en parler? Il y a mon collègue et ami Maca Coteau, qui est chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, qui est acteur, qui est ex-ministre de la Culture et des Communications au Parti québécois, qui a écrit un excellent texte dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, qui s'intitule « Vous avez dit nègre? » Point d'interrogation. Maca, bonjour.
Bonjour, Sophie.
Est-ce que tu es surpris de l'ampleur qu'a pris cette controverse, qu'on continue à en parler autant de jours après, qu'il y ait autant de chroniques, autant d'entrevues, autant d'émissions qui ont été consacrées à ça?
Surpris de l'ampleur, oui, certainement. Et ça trahit quelque part le travail inachevé derrière ce mot qui, de part et d'autre, disons, suscite colère, étonnement, colère du côté de cette jeune génération d'Afro-descendants qui a intégré, intériorisé même, je dirais, l'aspect essentiellement négatif de ce mot qui, en anglais, a une portée dévastatrice pour eux, parce qu'elle s'appuie essentiellement sur le mépris, alors que en français, le mot nègre, qui, je le rappelle, a été dans le passé, dans les années 30, récupéré, qui a été réapproprié par des intellectuels de haute dimension, en l'occurrence Léopold Sédar Senghor et Aimé Césaire. Et il y a Dumas aussi qui venait de la Caraïbe également pour en faire une sorte de d'arme culturelle, artistique, parce que de leur point de vue, il n'était pas nécessaire de se mettre en colère ou de grimper au rideau, pour utiliser une expression familière, pour faire entendre sa voix. Ils ont entamé dans les années 30 un travail de déconstruction de ce mot pour donner au monde, offrir au monde la véritable dimension identitaire, culturelle, artistique, historique de ce qu'on nommait nègre à l'époque.
Ouais.
Et il faut rappeler que avant l'esclavage et la colonisation, nègre était un mot qui était l'équivalent d'homme. Il a pris cette dimension, cette facture négative, seulement avec ces deux épisodes, l'esclavage et la colonisation, et ça a collé à la culture occidentale. Et en Afrique, avant Senghor et Césaire, avant leur croisade intellectuelle, les Africains en avaient une mauvaise perception également.
Mm-hmm.
Et l'histoire nous dit que le travail de Senghor et Césaire a été salutaire pour l'Afrique, parce que quand on se réfère à l'effet papillon, si on avait laissé traîner dans l'inconscient collectif en mm-hmm. Occident et en Afrique ce côté négatif du mot, je ne sais pas où on en serait aujourd'hui dans le rapport avec l'altérité, avec l'autre. Il est possible que le microcosme de cette jeune génération d'afro-descendants aujourd'hui, qui est complètement déconnecté de cet héritage culturel
voilà.
de Senghor et Césaire, soit, disons, beaucoup plus large que ça.
Ouais.
Et ce qui leur manque ici, c'est cette dimension-là.
Oui, mais c'est ça qui est intéressant, parce que tu as été le premier à mettre le doigt sur le fait que c'est peut-être une question de génération. Parce que je regarde, par exemple, à Tout le monde en parle, dimanche, on avait choisi, enfin, on, excluant la personne qui parle, Guy Lepage avait choisi d'inviter 4 jeunes intervenants. Donc, il y avait Vanessa Destiné, il y avait Webster, il y avait Ricardo Lamour, et il y avait Émilie Nicolas. Et on aurait pu tout aussi bien inviter toi, inviter Normand Brathwaite, inviter Dominique Anglade, inviter Daniela Ferrière, inviter Normand Brathwaite. Mais vous êtes des représentants d'une autre génération et on se dit, ben, ces gens-là voient vraiment pas les choses de la même façon. C'est quand même assez singulier que vous tous qui défendez un petit peu une perspective historique, que vous fassiez dire par la jeune génération, vous pensez pas de la bonne façon.
Mais je les comprends, quelque part, parce que j'ai une perspective, en fait, une vision holistique de la chose, tout comme Dany, Normand, Aboukar et d'autres. Senghor et Césaire, dans la réappropriation du mot nègre, et en faisant un concept porteur, lumineux, ils l'ont nourri de quoi ? Ils l'ont nourri de la culture, de l'histoire, des mm-hmm. arts africains, et des langues aussi. La jeune génération ici, aujourd'hui, en Amérique du Nord, elle, je peux me tromper, mais je suis sur une pente empirique, elle ne possède pas ce contenu-là. Le seul contenu qu'elle possède est le contenu culturel, artistique, linguistique nord-américain.
Oui.
Donc c'est tout ce qu'ils ont. Et quelque part, en mettant en parallèle notre génération et la leur, nous avions un socle sur lequel s'appuyer, un socle sur lequel nous reconnaissions, alors que eux, ici, aujourd'hui et maintenant, ils n'ont pas de socle de repli. Et ils se sont totalement fondus à la société à laquelle ils appartiennent, dans laquelle ils sont nés. Et en comparaison avec nous, ils ne se voient pas dans cette société à travers les médias, à travers le cinéma, à travers la télévision. Ils ne se voient pas représentés sur la base essentiellement de la couleur, sur la base culturelle la question ne se poserait pas s'ils maîtrisaient la culture de leurs ancêtres, entre guillemets, ou les cultures de leurs ancêtres.
Oui, c'est pour ça que ta chronique était si importante, d'avoir ce rappel, voilà. Ce rappel historique. Mais je veux juste faire une petite aparté, une citation quand même assez savoureuse de Dany Laferrière à propos de toute cette controverse autour du mot qui commence par un N. Il a dit cette plaisanterie d'une hypocrisie insondable du N-word est une invention américaine comme le hamburger et la moutarde sèche. J'avoue que l'humour de Dany Laferrière quand même fait beaucoup de bien. Écoute, je veux juste revenir sur le fait que toi, depuis le début de cette entrevue, tu as utilisé à plusieurs reprises le mot qui commence par un N. Il se trouve que à Tout le monde en parle dimanche, Guya Lepage, et je vais prendre sa défense, a utilisé à quelques reprises le mot N simplement pour citer le titre du livre de Dany Laferrière, Comment faire l'amour avec un nègre, et il y a quelqu'un qui a réagi très 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 fortement sur les médias sociaux. C'est un jeune artiste qui s'appelle Renzel Washington, et je veux te faire écouter ce qu'il a dit, puis je veux avoir ta réaction après. On écoute Renzel Washington qui apostrophe Guya Lepage.
Ça, je veux dire, moi, je suis là comme ça, je vois... Yo, qu'est-ce que Guya faisait hier? Est-ce que je peux poser une question au peuple? Est-ce que vous croyez qu'en meeting de préparation... Tout le monde est dans la salle. Puis, Guy, quand tu vois aider une aigle, tu sais, à quel moment est-ce qu'il y a... Tu vois, je dis, parce que tous ces gens-là, ils sont là. Ouais, il y a un contexte académique, on doit le citer. Moi, je me pose vraiment la question. Si dans la salle de prod, ils sont là, nexi, nexa, puis comme il n'y a pas un noir qui travaille là-bas, mais comme si, disons qu'il y avait un stagiaire, jeune gars, 18 ans, qui essaie de faire son... Puis là, il est assis dans le coin... Et tout le monde qui le contrôle de manière générale, sans dire nègre à droite, mais à droite, puis lui, il peut rien dire. You know what that feels like? Slavery. Yeah, wow.
You know what that feels like? Slavery. Donc, premièrement, on se pose la question pourquoi tout d'un coup il se met à parler en anglais. Et cet homme, Renzel Washington, dit que le fait que Guya Lepage a utilisé le mot nègre en citant un titre de livre, Ça fait ressentir comme si c'était de l'esclavage. Je veux ta réaction là-dessus, Maca.
Mais on est dans la résonance d'une perspective très limitée, justement, à l'histoire relative à l'esclavage. Probablement qu'il descend lui-même d'ancêtres ayant subi l'esclavage. Mais comme je dis, il leur manque cette dimension philosophique et historique de la réappropriation de ce terme chez les francophones, mettons. Et l'autre dimension que je mettais en lumière relativement à cet enjeu, c'est dans l'article, c'est que chez les anglophones, le travail de déconstruction de ce mot ne s'est pas fait, il restait à faire. Et je me rappelle également au collège, au secondaire, quand on nous parlait de la rivalité entre les Senghor, les Césaires, les Damas, versus les Wolsoinka, qui étaient Nigérians et auteurs de haut gabarit aussi, il y avait une discorde. Perpétuel, parce que les auteurs anglophones ne digéraient pas le terme nègre, parce que justement ils le considéraient de la perspective de leur culture anglicisée comme un terme négatif. Donc on a frayé ensemble, mais sans jamais, au plan culturel, sans jamais se rencontrer. L'Afrique francophone a fait un travail au niveau scolaire pour amplifier le chantier initié par Césaire et Senghor dans les écoles primaires, secondaires et même à l'université. Grâce à cette réappropriation positive, nous avions appris nos langues, nous avions appris notre histoire, parce que peu de gens, même chez beaucoup d'Africains qui vivent hors du continent, ne connaissent pas l'histoire de l'Afrique véritable.
Ils connaissent tu penses, oui.
Voilà. Ils connaissent celle que les vainqueurs derrière l'esclavage et la colonisation avec l'écrite, mais ils connaissent pas l'authentique histoire, celle que Cheikh Anta Diop, qui était un savant sénégalais, ayant œuvré au Collège de France et ayant le premier établi un lien entre l'histoire de l'Afrique et l'histoire de l'Égypte ancienne pré-islamique, qui était l'histoire des pharaons.
Ah, oh, ben là, je pense que t'es en train de perdre 99% des étudiants. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, écoute, je fais juste te dire.
C'est de ça que s'est nourri la réappropriation du terme nègre et le mouvement de la négritude. Il s'est étendu jusque-là.
Voilà.
Et donc, quand on est nourri, quand on est pétri là-dedans, que vous croisiez quelqu'un dans la rue qui vous traite de nègre, si de sa perspective, il trouve que c'est une insulte, c'est son problème. Mais toi qui es habité, nourri par tout ce patrimoine, ça ne t'affecte pas. Donc, la réaction de ce monsieur témoigne du fait qu'il est, comment dire, il n'est pas habité par ce patrimoine, voilà.
Excellent. Ben écoute, c'est passionnant comme discussion, puis écoute, ce que ça nous fait comprendre, Maka, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles ta chronique a été si populaire et si partagée sur les médias sociaux, c'est qu'on a besoin aussi de gens avec une perspective historique, avec qui remet les choses dans le contexte, qui prend un pas de recul, qui a des références littéraires, qui a des références historiques, qui a des références dans les humanités, si on peut dire de cette façon-là. Ça a été vraiment passionnant, puis j'encourage vraiment tout le monde à aller lire ta chronique. Vous avez dit nègre, point d'interrogation. Maka, faut qu'on t'entende plus souvent à la radio. J'ai adoré cette conversation. Merci beaucoup.
Merci, bonne amie.
Maka Koto, donc, est chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, est acteur et ex-ministre de la Culture et des Communications au Parti québécois.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Sophie Durocher. Entendez les dessous de sa dernière chronique.
Cube Radio.
Vous vous souvenez quand le président Barack Obama avait été réélu, il avait écrit sur Twitter « 4 more years ». Ben hier, François Legault aurait pu dire « 4 more weeks ». Ben oui, 4 semaines de plus de ce semi-confinement. Ça veut dire que plein d'entreprises, dont les restaurateurs, doivent rester fermées encore pendant 4 semaines. Qu'est-ce que ça représente pour le milieu de la restauration? On va en parler avec Vianney Godbout, qui est restaurateur, copropriétaire de Succeda et consultant en restauration. Vianney, bonjour.
Bonjour.
5 heures hier soir, hier après-midi. Comment avez-vous réagi, Vianney?
Ben, sans surprise, c'était très prévisible, mais je veux dire, ça veut pas dire que les impacts ne sont pas catastrophiques. En fait, je pense que depuis le début de la pandémie, ils l'ont été. C'est sûr que le deuxième confinement, si on veut, ça a été un peu maladroit, la façon de l'annoncer, là. Dès le départ, je pense que ça a créé des tensions. On a vu Christian Dubé se pavaner à Tout le monde en parle, sans faire une annonce officielle, puis qu'il y a des gens, peut-être qu'on dirait qu'ils sont un peu naïfs, mais que le lundi, dans le jour, ils pensaient rester ouverts, ils ont passé des commandes, ils ont dépensé de l'argent pour se faire fermer finalement. Je vois pas l'intérêt de faire des annonces comme ça en après-midi. Et puis, c'est important de mentionner que les mesures gouvernementales provinciales, il n'y a pas un seul commerce qui a vu un sou à date. Puis, je veux dire, des mesures d'urgence, il y a le mot urgence là-dedans. Donc, normalement, ça devrait être plus facile d'y accéder. Et puis, je veux dire, c'est pas tout le monde qui peut tenir le ad vitam aeternam sans avoir de l'aide.
Donc, vous dites qu'au niveau provincial, il n'y a aucun de vos collègues restaurateurs qui a reçu une scène du gouvernement.
Non, les programmes sont excessivement compliqués, c'est long à adhérer. Puis, en fait, le programme n'est pas encore sorti officiellement. Donc, il a été annoncé. Puis je sais qu'hier, M. Legault a dit que ça serait simplifié, d'ailleurs. Mais c'est un cauchemar, c'est un labyrinthe là, de réussir à s'en sortir dans tout ça.
C'est quoi, c'est style la maison des fous d'Astérix là, le formulaire bleu A304 qui doit être tamponné par la fonctionnaire B92, c'est ça, c'est comme une espèce de labyrinthe fonctionnariat?
Ben, c'est complètement ça. Puis en fait, même les comptables avec qui je travaille, ben, les détails ne sont pas encore sortis, tout ça.
Oui.
Donc, nous, on attend, on est fermé. Puis, y a des gens bien pensants qui nous disent que ça va bien aller. Faites du take-out, puis tout ça, mais je veux dire, ça marche pas. Là. Le take-out, je pense, pour se désennuyer. Là. Il y a certains rares commerçants là, qui font des bonnes affaires avec le take-out, mais ce n'est pas une solution viable. Là.
Bon, quand il y a eu le premier confinement, on pensait que... Bon, on a vu, de toute façon, plusieurs restaurants fermer leurs portes. Après, il y a eu l'été, quand même, un répit, les terrasses et tout ça. Et là, avec ce deuxième confinement, on a vu encore d'autres restaurants fermer. Selon votre évaluation, Vianney, combien, quand on va se retrouver à Noël... quel pourcentage ou combien de restaurants au Québec auront dû fermer leurs portes à cause de la pandémie?
Ben, à Noël, je pense que c'est pas nécessairement la vraie estimation parce que la majorité des commerces ont pris tellement de retard que c'est probablement dans la prochaine année et demie que ça va se refléter, sauf que je pense que c'est complètement catastrophique. N'importe qui avait pas une solidité financière là, immense passera pas au travers parce que là, on ferme, sauf que je veux dire, si on réouvre, on va réouvrir en plein dans la pire période de l'année, qui est l'hiver, qui est glacial, qui est compliqué. En plus, il n'y a plus personne en ville. Donc, je ne crois pas que, franchement, certaines institutions probablement vont survivre à tout ça, sauf que ça regarde très, très mal.
Qu'est-ce que vous, quand vous parlez à vos amis dans le milieu de la restauration, la détresse psychologique, c'est plus de la tristesse, c'est de la colère. C'est quoi que les gens ressentent sur le terrain?
Bien, beaucoup de colère, beaucoup de tristesse également. En fait, les deux sont très valables parce que c'est les gens qui sont en restauration, c'est un métier de passion. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le font parce que c'est l'avenue idéale pour faire beaucoup d'argent ou quoi que ce soit.
Non.
Donc là, on se fait un peu scier les jambes, puis ça remet en question plein de choses, là, parce que c'est les rêves de plein de gens qui sont en train de tomber en cendres complètement. Et puis, j'ai vu beaucoup de gens qui n'étaient pas propriétaires d'entreprise chercher à tout prix à se réorienter. Il y a une écœur en titre. Puis toute la restauration, je veux dire, on vend du plaisir, on est supposé en avoir un peu. Parce que là, avec toutes les mesures, tout ça, il y a plus de plaisir, là, carrément. Là, c'est, même quand on a réouvert cet été, là, être obligé de faire la police dans nos propres commerces, avec les clients, tout ça, c'est pas le rêve. Là.
D'autant plus que ben il y avait quand même déjà beaucoup d'argent qui avait été investi dans les plexiglas, dans les mesures sanitaires et tout ça. Écoutez, vous, j'ai vu que vous êtes quand même retourné sur un Dicen. Il y a ce service Succeda, là, c'est des services de livraison de plats italiens. Est-ce que c'est suffisant pour survivre, pour manger trois fois par jour, Vianney?
Bon, en fait, je l'ai fait avec Nick Bramos et Nima, qui sont des collègues, puis on est juste trois là-dedans. Je veux dire, présentement, je ne crée plus d'emploi. Là. Nous, on a décidé de ne pas rester à déprimer. Donc, c'est un peu la cuisine italienne. On a pris les recettes des grands-mères de nos amis et tout ça, puis on fait une cuisine super authentique. Puis franchement, étant donné qu'on n'a pas de salaire à payer, tout ça... on se désennuie, on s'en sort, mais non, c'est pas une vraie business, là, je veux dire. Mais par exemple, on distribue beaucoup de bonheur. Ça marche très, très bien. Donc, qui sait? Est-ce que c'est une avenue possible? Je pense que peut-être que Succeda va exister très prochainement dans un vrai local et tout ça, mais il faut se réinventer complètement. Le type de restauration que je faisais, des menus dégustation, tout ça, de toute façon, ça se réinvente pas en take-out.
Mais non.
Si je décide de me mettre à faire des burgers, il y a plein de gens qui c'est déjà leur business d'en faire, qui les font bien. Donc, on s'est réinventé vers une tendance italienne. Puis je crois que si j'ai à ouvrir un commerce, je peux plus me fier sur une business dans laquelle j'ai 4 à 6 heures par jour pour faire de l'argent. Donc, il va falloir transformer. Bon, on va faire une épicerie fine à saveur italienne, un café... du prêt à manger, on va pouvoir manger sur place éventuellement, sauf que, je veux dire, de ce qui est juste sur un service du soir et tout ça, j'ai plus l'énergie, j'ai plus envie de faire ça.
Ah oui! Donc, même si, mettons, même si le 23 novembre, le gouvernement dit, bon, les restaurants rouvrent, puis là, ils vont être ouverts, là, vous pouvez, vous êtes ouverts pour le restant de vos vies, même là, vous n'aurez pas envie de rouvrir un restaurant parce que le prix à payer est trop élevé, Vianney?
Mais il y a juste les fous qui changent pas d'idée, sauf que à court terme, pas vraiment, non. Parce que franchement, je veux dire, premièrement, on le sait, ouvert pour le restant de nos vies, ben peut-être que ça changerait des choses, mais pas quelque chose que je vois arriver de si tôt.
C'est ça, puis on peut pas le garantir de toute façon.
Exactement. Sauf que, je veux dire, quand on pense qu'on fait relativement bien les choses et tout ça, et que c'est des impondérables et des facteurs extérieurs qui nous mettent carrément dans la merde, dans mon québécois, c'est très fâchant. Puis, je veux dire, je pense que tout le monde est un peu à la recherche de sécurité, de stabilité. Puis, malheureusement, c'était déjà un secteur d'activité qui était pas sécuritaire et très instable. Mm. Sauf que là, c'est un peu le coup de massue. Puis franchement, moi, j'étais pas surpris du tout à l'annonce du prolongement de fermeture. Sauf que c'est vraiment dommage d'être instrumentalisé par le gouvernement pour enlever l'envie des gens de se réunir ou quoi que ce soit, alors qu'on sait très bien que malgré tout ce qui se passe, les gens vont se réunir ailleurs. Et puis, je pense que les restaurants ont donné une très belle performance sur ce qui était des mesures sanitaires et tout ça. Il y a eu quelques rares délinquants. Je pense qu'on a... Justement, les délinquants n'ont pas été assez punis. Puis à la place, on a décidé de punir l'ensemble d'une industrie qui crée énormément d'emplois, qui est un secteur d'activité qui est important à Montréal, au Québec au complet. Puis je pense que ça va laisser des dommages irréparables.
Il y a une information quand même qui est assez intéressante, c'est le fait que bientôt on va pouvoir faire livrer une bouteille de vin avec un repas. Par contre, c'est le gouvernement caquiste donc qui a déposé il y a quelques jours le projet de loi 72 pour la livraison d'alcool. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait, parce que le gouvernement dit on fait ces assouplissements là pour que les restaurateurs qui ont besoin d'aide en ce moment puissent un petit peu s'en sortir. Est-ce que ça peut faire une différence, Vianney?
Ben tout peut aider, faire une différence majeure. Non, puis de toute façon c'est trop peu, trop tard.
SAQ, ah oui?
C'est le système le plus archaïque, je veux dire, au Canada, puis potentiellement là, dans beaucoup d'endroits civilisés dans le monde. C'est très compliqué d'être un marchand de spiritueux ou d'alcool ou de vin au Québec. C'est une mafia totale. Puis de laisser les gens, ben, justement, livrer de l'alcool, déjà, c'est étrange. Je veux dire, moi, Saint-Hubert le faisait déjà. Il y a des lois, il y avait moyen de le faire. L'afficher différemment comme ça, c'est charmant, là, mais je crois pas qu'il y a personne qui va sauver sa business à cause de ça. Là.
Non. Quand on s'est parlé, vous et moi, on s'est parlé à plusieurs reprises depuis le début de la pandémie, parce que dans votre cas, c'est comme ce qu'on appelle en anglais un double whammy, là, c'est que non seulement vous vous faites rentrer dedans par la pandémie, mais en plus vous faites rentrer dedans par la ville de Montréal, les travaux sur la rue Saint-Denis. C'est pour ça que je voulais que vous réagissiez à un sondage qui a été fait récemment. 42% des Montréalais qui songeraient, semble-t-il, à déménager. Comment vous avez réagi quand vous avez vu 42% des Montréalais pensent à déménager de l'île? Donc, votre réaction là-dessus, Vianney?
Oh ben, je suis vraiment pas étonné. J'en fais partie. Je veux dire, en théorie, je suis toujours Montréalais, sauf que j'ai passé les derniers mois carrément là, en retrait là, au chalet, si on peut dire, parce que Montréal est vraiment pas agréable. Je veux dire, ça a perdu tous ses attraits. Puis je vois pas quand ça va revenir, là, franchement. Puis ça revient au même débat. Je pense que tout le monde a hâte à novembre 2021. Pour sortir le projet Montréal puis commencer à essayer de travailler pour faire une métropole avec le village qu'on a, avec lequel on est rendu.
Ouais. Vous dites que c'est ça, le verre et les plantes a transformé Montréal en village. On est passé d'une métropole à un village. Expliquez-nous pourquoi exactement, Vianney, vous pensez ça?
Oui, ben, premièrement, je pense qu'ils n'ont pas de plan, là. C'est toujours de l'improvisation totale. Il n'y a pas d'écoute. Je veux dire, d'un côté, regardez la dernière annonce des stationnements gratuits les week-ends, c'est un peu là, c'est indécent. Là. Je veux dire, après avoir complètement découragé tout le monde de venir en ville, on annonce ça alors que les commerces sont fermés, là, sauf les commerces de détail. Il n'y a aucun intérêt. Maintenant, j'en ris. Hein. Quand je vois les annonces qui sont faites, je trouve que faut tellement être... faut être très mal informé pour sentir que c'est une annonce qui va faire quelque chose de bien ou être complètement là, pro-projet Montréal puis aveuglé par la réalité des choses. On arrive dans l'hiver. Montréal est une des villes les plus froides au monde. Il n'y a plus moyen de se déplacer. Les artères commerciales sont transformées en artères cyclistes. Quand on est dans une période là, on a besoin d'une relance économique rapidement et que c'est très important. Fait que c'est des décisions qui sont simplement idéologiques, qui sont faites à tout prix. Je pense, même en assumant que le prochain mandat ne sera pas leur, sont sur une mission. Puis je trouve ça dommage que les gens se mobilisent pas un peu plus pour carrément prendre action afin de sauver la ville.
Oui. Mais vous, vous avez été tellement vocal au cours des derniers mois, au cours des dernières semaines là-dessus. Songez-vous à vous recycler et à vous lancer en politique municipale pour mener votre projet anti-projet Montréal jusqu'au bout?
Ben, je dirais pas anti-projet Montréal, disons plutôt pour Montréal tout court. Mais c'est pas impossible. Novembre 2021, c'est loin. J'adore Montréal. Je suis à Rosemont depuis 12 ans. Donc, c'est absolument pas impossible. Je veux dire, je pense que c'est important de pas simplement se plaindre, mais de prendre action. Donc, qui sait? Il y a plusieurs choses qui sont possibles. Là, de toute façon, pour ce qui est de la restauration, comme j'ai expliqué, c'est un peu plus calme. Mes journées, je sens moins occupé.
Oui.
Puis, c'est sûr que c'est quelque chose qui m'interpellait pas, parce que je veux dire, moi, quand les décisions municipales m'affectaient plus ou moins ou tout ça, on y porte moins attention. Mais quand on a été victime d'une aussi grande violence de la part de la municipalité, c'est sûr qu'on voit qu'il y a des choses qui fonctionnent pas, qu'il faut prendre action pour les changer.
Pour revenir juste brièvement sur cette décision du gouvernement de d'étendre le semi-confinement pendant encore 4 semaines, le monde de la restauration, est-ce qu'il devrait faire comme les gyms? Il y a 200 gyms au Québec qui ont dit peu importe, en zone rouge là, jeudi on va rouvrir nos portes, on va défier le gouvernement. Est-ce qu'il y a des restaurants qui devraient faire ça, qui devraient ouvrir leurs portes pour défier le gouvernement?
Je pense pas que les gens devraient, il faut être vocal, manifester, oui. Après, je comprends quand même qu'on fait face à une crise sanitaire là, qui est mondiale. Là. Je veux dire, on peut pas dire qu'il n'y en a pas de problème. Je pense que le gouvernement devrait juste être plus concret dans ses mesures d'aide, les rendre plus accessibles, puis être plus transparent dans son information. Après, je veux dire, tant qu'on est aux alentours de 1000 cas par jour, je comprends que ça peut être des lieux de propagation, mais s'il vous plaît, tu sais, je veux dire, dites-nous pas que c'est correct de passer l'Halloween pendant que vous fermez notre gagne-pain.
C'est juste d'être cohérent dans
sa ligne de pensée. C'est ce qui est un peu ridicule. Je veux dire, je comprends que l'Halloween des enfants, c'est important, mais j'ai pas l'impression que si j'avais manqué une Halloween là, dans mon enfance, je serais traumatisé pour le restant de mes jours.
Oui. Dites-nous pas de passer.
Mes parents perdaient leur business puis qu'on se ramassait à perdre la maison, puis là, je serais un peu plus traumatisé, par exemple.
C'est un très bon parallèle, en effet.
Mais je crois. Puis, franchement...
On va se quitter là-dessus, Vianney, malheureusement. C'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup, Vianney. Désolé, je déteste faire ça, mais là, on est vraiment à l'extrême limite de notre temps. Vianney Godbout, donc, restaurateur, copropriétaire de Succeda et consultant restauration. Merci, puis bon courage, Vianney.
Merci beaucoup, Sophie.
Merci. Bon, ben, c'est comme ça que ça se termine. On se retrouve demain à l'émission, évidemment, Sophie Durocher. Mais vous savez que vous pouvez tout le temps nous écouter en direct à 17h30. Mais aussi, le balado est disponible dès midi. Merci à Sébastien Laperrière à la mise en onde. Merci à Hugo Veilleux à la recherche. Et je vous dis ciao, ciao, à demain.
Cube Radio.